Joël Dupuis, vous êtes
Lionel Dupuis.
Lionel, vous êtes géographe, chercheur associé au laboratoire Société Environnement Territoire à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, et vous venez d'éditer un bouquin à la maison d'édition Soulettine Achetot-Beharrac, le titre étant Géographie, le territoire et ses paradoxes.
Tout à fait.
Et pour étayer vos propos, vous êtes référé donc à trois sources, l'une étant la littérature de Jules Verne, l'autre les tags qu'on trouve donc dans le monde urbain, et le troisième la langue occitane. S'agissant des langues, donc vous référez plus essentiellement donc à la langue occitane. Vous nous dites à un moment donné que avant la Révolution française, que les liens territoriaux était fixé ou était fait par un réseau de langues, que la Révolution française a cassé ça, a mis une administration pyramidale, et qu'aujourd'hui, de nouveau, il y a cette envie de reterritorialisation linguistique qui se fait voir.
Et ce que j'ai voulu dire, c'est qu'avant la Révolution française, on avait un morcellement territorial, on avait des territoires plus ou moins grands, et à l'intérieur de ces territoires, il y avait des communautés urbaines, des communautés villageoises qui se développaient et qui parlaient ce qu'on appelait des patois, des langues régionales. Et donc, il n'y avait pas de cadre administratif et politique pour découper la France, puisque la France était en train de se construire. Et il y avait donc une multitude de patois, pour reprendre ce terme péjoratif qui a été employé très longtemps, qui coexistaient sur des territoires de vie quotidienne. Aujourd'hui, avec la Révolution française, la mise en place et l'institutionnalisation des départements, des régions, etc., on a un découpage qui est assez géométrique du territoire. Il est évident que ce découpage géométrique ne correspond en rien avec les pratiques linguistiques. Ce que j'ai voulu, c'est mettre en évidence le fait que la Révolution française a imposé un découpage assez rationnel du territoire qui ne correspond pas et qui ne correspondait pas volontairement aux pratiques linguistiques qui existaient, et cela a été dénoncé souvent. Et le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, finalement, on revient vers ces départements et vers ces régions pour faire vivre ces langues. L'exemple de l'Occitan ou du Basque, c'est pareil. Au Pays Basque, on fait appel au conseiller général, on fait appel à la région pour mettre en place des politiques culturelles et linguistiques pour valoriser la langue, alors même que les départements ont été créés il y a plus de 200 ans pour mettre fin à ces territoires sociaux et linguistico-historiques. Donc il y a une réalité sur le terrain, une réalité actuelle qui ne correspond absolument plus aux découpages qui sont là depuis 200 ans et que d'ailleurs on commence sur lesquels on commence à réfléchir.
Je ne sais pas si, du fait de vos travaux, si ma question va être pertinente ou pas. Comment est-ce que vous mesurez ou quelle lecture vous faites des revendications, justement, linguistiques, de cette volonté de récupérer sa langue, mais aussi une propre territorialité liée à des langues particulières et à leur culture. Ici, par exemple, au Pays Basque Nord aussi, on demande une territorialité nouvelle.
Je comprends parfaitement la revendication culturelle et linguistique, elle est tout à fait légitime, et il est normal que les institutions et que les associations, les personnes la prennent en compte et la valorisent. Là où je suis beaucoup moins d'accord, que ce soit pour n'importe quelle langue régionale, je ne pense pas qu'il soit pertinent de demander une communauté autonome basque qui serait juste liée en fait au Pays Basque Nord tel qu'il existe dans le département du Pyrénées-Atlantiques, qui n'aurait de sens que s'il est rattaché au contraire avec ce qui se passe au Pays Basque espagnol. Là par contre, une coopération transfrontalière serait beaucoup plus pertinente. Je comprendrais davantage qu'on puisse mettre en place une communauté basque sud, basque espagnol et basque français, une communauté transfrontalière. Là, je comprendrais à la fois la logique territoriale, parce qu'au niveau de l'échelle territoriale, ce serait pertinent. Au niveau culturel et linguistique, ça me paraîtrait plus cohérent.
Je me posais une question aussi, je ne sais pas si c'est en préambule ou au milieu de vos pages. Une langue possible sans territoire, vous posez la question. Vous avez une réponse?
Oui, mais c'est la grande question en fait que je m'étais posée il y a quelques années. J'avais été invité en 2008 à faire une conférence dans le cadre des rassemblements des espérantistes de France, parce que Jules Verne, qui est le cœur de mon travail universitaire, avait travaillé à la toute fin de sa vie sur un texte qui devait faire la part belle à l'espéranto. Et donc j'ai fait un petit bouquin sur l'espéranto dans l'œuvre de Jules Verne et comment Jules Verne s'est intéressé à cette langue. Et justement, l'espéranto est une langue sans territoire. Je pense qu'il est très difficile, et la preuve en est la discussion précédente qu'on a eue avant sur les configurations territoriales, une langue c'est un territoire, incontestablement. Ou une langue, c'est un territoire de rattachement. Par exemple, si on prend les migrations basques, les basques qui sont, par exemple, je sais qu'ils sont très nombreux, il y en a beaucoup, une communauté basque à San Francisco qui est très importante, on va pouvoir me dire, oui, ils n'ont pas de territoire. Si, ils ont le territoire basque auquel ils peuvent se ferrer, il y a un territoire, quelque part, physiquement, qui existe sur Terre, auquel se rapporte une langue. L'Occitanie, c'est pareil, le français, c'est pareil, toutes les langues. Donc, vraiment, il y a une articulation très très forte, très très nette, entre une langue et un territoire. Et une langue sans territoire, donc une langue artificielle, sans territoire, c'est une langue dont je me demande si elle a véritablement les moyens de survivre, puisque l'ancrage d'une langue passe par un territoire. Je pense que pour les basques, évidemment, il y a forcément des mots, des expressions basques qui expriment très clairement des réalités basques que vous seul maîtrisez. Moi, je le vois avec l'occitan, c'est pareil. Et donc, il y a ce rattachement. Une langue a un territoire, comme un enfant a un père et une mère. Je vois mal comment une langue pourrait exister sans véritable territoire physique comme cet espéranto, qui pourtant continue de fonctionner parce que des gens sont volontaires et veulent la mettre en place, une langue de communication. Mais cette question du lien entre langue et territoire, pour moi, elle est assez cruciale. Oui. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai voulu l'aborder et l'évoquer dans cet essai.
Et c'est à cause de cette raison-là que vous sentez, enfin, que la France serait réticente à signer la charte des langues minoritaires?
Oui, bon, je pense que là, c'est justement c'est une résurgence de cette logique verticale que l'on a en France et qui est un héritage de la Révolution française. Depuis l'édit de Villers-Cotterêts, de mémoire, en 1539, il faut que tout soit rédigé en français. La France est une république une et indivisible, et par conséquent, il ne doit y avoir qu'une seule langue. Et là, justement, on a affaire à une logique territoriale qui n'est pas pertinente. Il y a, de la part de ces personnes, de ces hommes politiques qui ne veulent pas signer la charte des langues régionales, l'idée que si l'on reconnaît les langues régionales, ça irait à l'encontre de la pratique de la persistance et l'existence du français, alors que c'est l'inverse. Quand on maîtrise et quand on parle une langue régionale, quelle qu'elle soit, ça se fait rarement, à part quelques personnes un peu bornées, mais ça se fait rarement à l'encontre du français ou d'autres langues. Moi, j'enseigne dans un collège immersif en occitan, j'enseigne l'occitan, je fais des cours en français quand je fais du français, je peux parler anglais et je suis occitanophone, je suis francophone, je peux être anglophone s'il le faut, et en aucun cas je ne vais stigmatiser l'une par rapport à l'autre. Non, ce sont trois langues qui se rattachent à trois territoires et trois pratiques différentes, et ça ne va pas à l'encontre. Et en aucun cas je ne vais critiquer l'anglais ou le français. Au contraire, chacune me permet d'apprendre mieux l'autre et puis de faire des ponts, au contraire. Donc c'est les langues, plus on pratique de langues, plus on a d'ouverture d'esprit, plus on peut mettre en forme un certain nombre de liens. Et c'est assez surprenant que cette République française, aujourd'hui encore, ne veuille pas signer cette charte des langues régionales, alors que c'est un atout linguistique et culturel incontournable.
Donc Lionel Dupuis, géographie, le territoire et ses paradoxes. Merci.